Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On se mercredi 15 novembre et au menu de cette émission ce soir, on va attaquer rapidement le programme avec Marseille. Et oui, cette vente qui revient à la charge. Mais on parlera pas que de Marseille. On fera plaisir à toute l'équipe de Time Sport et ainsi qu'à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. On reviendra sur ces Lyonnais parce que il y a tant de choses à dire sur les Lyonnais. Ça, c'est sûr. Deschamps et le choix du numéro 9. Eh ben, on aura Juan Trossier. Voilà. La plus belle critique sur cette équipe de France, mais pas que, aussi sur le football mondial. Il est avec nous ce soir, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Et Aurélien. Eh oui, Aurélien Duarte qui sera avec nous, comme à son habitude, dans cette fin d'émission, chaque mercredi soir, pour sa fameuse chronique. Le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. D'ailleurs, on vous pose ce débat du jour qu'on nous a concocté avec toute l'équipe de Time Sport. C'est qui sortira vainqueur pour le poste de numéro 9 en équipe de France selon vous? Voilà, on nous a dit Marcus Thuram, Colomoigny ou encore d'autres. On verra avec vous, avec le numéro du standard. Vous pouvez nous appeler et réagir au 01 53 48 3000. Sans plus tarder, on va commencer cette émission en présentant cette fine équipe.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Eh oui, on a Nasser qui nous écoute depuis Roma, mais on est en compagnie de Soufiane ce soir. Bonsoir Soufiane.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va?
Ah, ça va super bien, ça fait plaisir d'être là comme tout, comme toujours.
Eh ben nous aussi Soufiane, de t'avoir avec nous, parler de sport et pas que.
Et pas que.
Ouais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu parler du Noblard. Et justement ce soir on est accompagné, on l'aura prochainement, c'est promis dans cette émission, c'est Moussa, hein, qui nous passons le bonsoir à Moussa. Voilà, ça c'est fait. Juste en face de Soufiane, on va retrouver Benji. Benji,
oui,
pour le plus
bonsoir.
Grand plaisir de Yacine. Et
bien sûr, bonsoir Bilal, bonsoir à tous, très heureux d'être ici. C'est mon premier mercredi, hein.
C'est vrai.
Mine de rien, j'ai fait tous les jours de la semaine maintenant, ouais. Ça y est. C'est le calendrier est complété, donc très heureux d'être là pour la première fois un mercredi et de parler sport une fois de plus avec vous. Très heureux.
Eh ben oui, très heureux. Nous, justement, une petite pensée à Mathieu, qui devait être là avec nous, mais bon, il n'a pas pu. Mathieu, Yacine, qui pense à toi lui aussi. Comment ça va, Yacine?
Mathieu, c'est
sympa,
hein.
Mathieu.
C'est un
très très bon.
Donc, moi, j'ai une pensée pour Juan José.
Ah, Juan José,
c'est moi qui vais le présenter.
Ah ouais, vas-y.
Quand j'ai regardé le Real, ce qu'ils ont fait de Valence, j'ai dit, il y a quelqu'un qui devrait...
Il est originaire de Valence, en français.
Oui, je pense qu'il n'était pas bien. Il va se dire, quoi, oh là là, mon club, qu'est-ce qui lui arrive, quoi.
Ah bah oui, rentre-se, Valence, le Real,
effectivement,
comment ça va?
Valence a été battu par le Real, 5-1 du côté...
Pas que battu, hein.
Mais aujourd'hui, avant de continuer, j'ai quand même une pensée parce qu'on a appris le décès d'Alessandra Bianchi,
ouais.
Qui était notre confrère,
ouais.
Avec qui j'ai travaillé il y a quelques années.
Mais nous aussi.
À CNews, à Canal Plus.
Nous aussi.
Et j'ai une pensée pour elle. Tu as dit Nasser est à Rome.
Ouais, elle est à Rome.
Donc elle était rentrée il y a quelques années.
C'est ça.
Elle était spécialiste de la Roma.
Et des c'est vrai.
Et elle était folle amoureuse de Totti.
Ouais, voilà, de la Roma, et on l'avait accueillie dans la colonne d'émission.
On a appris son décès il y a quelques heures, donc quand même une pensée pour elle.
Alexandra Bianchi, qui s'est éteinte justement à l'âge de 59 ans, partie très jeune. Yacine. Un soleil romain, c'est ça. Elle nous disait, Bilal, si tu viens à Rome, tu pourras voir le soleil tranquillement du côté de l'Olympico. Et c'est vrai qu'on lui avait dit que c'était une journaliste assez remarquable et vraiment, elle nous avait béni sur cette épopée de Francesco Totti ou encore Vincenzo Montella ou
encore Delvecchio. Et puis c'était l'une des premières figures féminines à la télé qui parlait football, qui maîtrisait très bien son sujet. Il y avait à nous a ramené un petit peu sa touche.
Les grandes heures de l'équipe du dimanche avec un certain Thierry Gilardi aussi.
Oui. C'est entre l'Italie et Marseille. Oui. Voilà, elle était tout le temps rayonnante. Voilà, franchement, ça avait une pensée pour toute sa famille, pour elle. Elle partait très jeune.
Oui, très très jeune. C'était l'équipe avec justement Margoton, encore avec Alexandre Ruiz, avec Thierry Gilardi. Hervé Matou, on s'en souvient, sur cette équipe du dimanche. Et aussi, voilà, c'est là où on a pu voir.
Sur l'équipe TV aussi.
Oui, sur l'équipe TV aussi. C'est là où on a pu l'apercevoir avec un certain Darren Tullet pour les British, pour l'Italie. Mmh. C'est bien ça. Et voilà. Oui, peut-être un petit mot avec Benji, avec Soufiane.
Non, mais c'est toujours des moments compliqués et des moments de tristesse, mais on pense à elle et à toute sa famille, bien évidemment, et on va essayer de parler sport et de parler foot pour lui rendre hommage ce soir.
Oui. Justement, le premier sujet de cette émission, on va donner la parole à Solal. On va lui passer le bonsoir à Solal, justement, parce que Solal, à chaque fois, à son habitude, il nous fait son petit bonsoir à l'italienne. Et c'est vrai que ce soir, on va dédicacer cette émission à Madame Bianchi, Alexandra.
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien. Vous débarquez bien sur Time Sport, voilà votre quotidienne sportive de 20h à 21h forcément. Et je suis très content d'être là avec un magnifique plateau et de magnifiques invités.
Ouais, justement, il y a de magnifiques personnes voilà, qui m'accompagnent ce soir jusqu'à 21h. Les rumeurs encore assez folles de cette fameuse vente de l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est la première fois, je crois, qu'on va en parler avec Yacine. Je tiens à le rappeler, parce que Yacine, il a pas trop débattu de cela. Jouba, oui, mais Yacine, pas du tout. Benji, on va te donner la parole. C'est vrai qu'encore, ces rumeurs de vente, plus fortes que jamais. Mais maintenant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler. Et ces personnes, d'habitude, n'en parlaient presque jamais.
Ouais, je sais pas.
Nos confrères.
Moi, j'ai toujours l'impression que ça revient. C'est un peu un marronnier. On parle dès que, voilà, on sait plus trop quoi dire sur l'OM. On reparle. On remet en avant ce système de vente, de rachat, etc. et tout. Mais on sait pas vraiment si ça avance. On sait pas si McCourt est prêt à lâcher ou à quel prix. On sait pas combien.
Il demande toujours, en tout cas.
Voilà, exactement. Combien les potentiels acheteurs seraient prêts à mettre. On parlait notamment de l'Arabie Saoudite qui serait prêt et qui serait intéressé par le dossier.
Après, va savoir.
Après tout, voilà, on n'a jamais eu d'offres concrètes, de choses concrètes sur le dossier. On a toujours des miettes par-ci par-là, et avec ces miettes, à chaque fois, on essaie d'en faire un magnifique gâteau. Mais sauf qu'à chaque fois, ce gâteau, il finit toujours par une tarte à la crème dans la figure, parce qu'on n'a jamais, le fin mot de cette histoire du rachat de l'OM. Et donc pour moi, c'est à chaque fois, c'est toujours quand on sait pas quoi dire sur l'OM, on remet ça sur le tapis, ça fait parler de l'OM, mais on n'avance pas, on n'a jamais de choses concrètes. Donc moi, j'attends, j'analyse, je vois comment vont agir aussi bien les instances de l'OM que les instances de l'Arabie Saoudite.
Et pertinent.
Qui n'avance pas.
Yacine, tu es d'accord avec Benji?
Oui, d'accord. Quelque part, je suis d'accord avec lui. Moi, quand même, j'ai de très bonnes relations avec beaucoup de journalistes saoudiens.
Ouais.
Il y a 48 heures, j'en parlais avec un très très grand journaliste saoudien. Il m'a dit, ici au pays, il n'y a rien qui filtre sur l'achat de l'Olympique de Marseille. Rien qui filtre. Moi, je me pose la question, à un moment donné, l'Arabie Saoudite, l'État de l'Arabie Saoudite, ils vont finir par attaquer toute personne.
Ben, ah, carrément.
Dès
carrément.
Qu'il y a vente de Marseille, on l'associe à l'Arabie Saoudite. Je pense, s'il y avait une vraie volonté d'acheter Marseille, mais je ne vois pas qu'est-ce que... Ils ont bien acheté Ronaldo, Benzema, N'Golo Kanté et tout ça. Qu'est-ce qu'ils empêcheraient d'acheter l'Olympique de Marseille?
En tout cas, c'est le bon moment. La Coupe du Monde en 2034. Ils ont commencé à acheter...
C'est trop loin.
Les Qataris, ils ont acheté Paris. Je ne sais
pas si le monde est encore
en 2012.
Ça, c'est une autre chose.
Si on peut parler, ça, c'est autre chose. Il y a personne qui a dit qu'il y aurait le Covid.
Mais ça, c'est autre chose.
Ça me semble le bon moment.
En tout cas, je trouve que c'est le bon moment. Et en tout cas, c'est aussi le bon moment pour Marseille.
Bilal, si ça continue comme ça, je vais lui demander d'intervenir. Même il va parler en arabe.
Et
on va traduire. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très crédible.
On te croit, il n'y a pas de problème.
J'ai pas besoin de. Moi, quand je dis quelque chose, j'ai pas besoin que les gens me croient parce que je suis convaincu de ce que je dis et je pense être mieux renseigné que beaucoup de gens qui balancent n'importe quoi et surtout sur les réseaux sociaux.
Mais moi, la gestion du club actuellement à Marseille ces dernières années, excusez-moi, mais c'est une catastrophe. En gestion du club, on sait pas où on
est. Il le disait,
ça fait 30 ans que c'est une catastrophe.
Oui, mais là, c'est de plus en plus catastrophique. Le président, il est là, il tricote, on sait pas ce qu'on fait. Il y a 40 joueurs qui viennent, il y a 40 joueurs qui partent après la saison dernière. Les entraîneurs, ils défilent. Et j'ai l'impression que ce serait peut-être le bon moment de l'acheter. Et on dit qu'on fait qu'en parler, mais vous savez, messieurs, plus on en parle, c'est qu'il se passe quelque chose on le sait très bien aujourd'hui que les Qataris,
les Qataris n'ont pas mis 10 ans pour acheter.
Ils ont mis
à peine 6 mois, ils l'ont acheté.
Non, c'est pas
la culture, des gens des Moyen-Orient, quand ils veulent acheter quelque chose, il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information, que ce soit des gens qui sont très discrets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attendait à l'achat de Ronaldo, de Benzema? Personne ne s'attendait à ça. Personne. Ils fonctionnent, souvent en sous-marin, parce que les gens croient, parce qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont bêtes.
Il y avait des rumeurs quand même.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour les Saoudiens, quel intérêt d'aller acheter l'Olympique de Marseille?
La Coupe du Monde qui va arriver.
Mais qu'est-ce que la Coupe du Monde? Ils l'ont, c'est eux qui vont l'organiser.
Et puis le fait de prendre un club historique, d'avoir la confrontation face au Qatar, du Paris Saint-Germain.
Mais au-delà du sport,
Mais oui,
il y a quoi, le marketing du pays. Le pays
ils ont pas besoin,
est dans
ils
un
ont,
renouveau.
Ils ont combien de clubs en Europe? Ils peuvent acheter le club qu'ils veulent.
C'est non, qui est le club ennemi. Ouais. Donc, dans l'idée, moi, je pense que ça pourrait être une bonne option. Et en plus, tu parlais de bon moment, mais c'est aussi un bon moment parce que l'OM va mal. Donc l'OM, peut-être que McCourt, même s'il n'a pas donné de prix exact ou de choses concrètes, de la valeur dont il estime l'Olympique de Marseille.
Ouais.
Je pense que c'est peut-être un bon moment en termes de prix aussi pour eux, même si je pense que c'est pas le premier de leurs soucis, même avec les affaires qu'il y a eu entre les supporters, Longoria, etc. et tout, il y a quand même un climat assez compliqué.
Il a retiré sa plainte.
Voilà, il y a quand même un climat assez compliqué autour de l'Olympique de Marseille, donc compliqué pour eux. Est-ce qu'ils se disent peut-être on va attendre avant d'acheter, mais en même temps ça peut être un bon moment pour eux pour aller acheter, parce que peut-être que le prix pourrait être un peu plus élevé à la baisse et que McCourt pourrait le lâcher plus vite en se disant je me débarrasse de la patate chaude.
Rodrosset, on l'écoute.
Je pense qu'on a pris le problème par les mots bebou. Pourquoi ?
Alors pourquoi ?
Parce que là on commence à se dire est-ce que l'Arabie Saoudite ? Non. L'information qu'on peut ressortir, la première information qu'on peut ressortir, ce n'est pas que c'est l'Arabie Saoudite, c'est que McCourt veut vendre.
C'est ça.
Marseille. C'est ça l'info.
Oui, c'est
qu'il veut vendre.
Elle a pas tort,
on verra qui.
Merci.
Mais c'est qu'il veut vendre.
Ouais.
Rappelez-vous, il y a l'année dernière, on parlait que le Marseille pouvait être vendu pas moins des 400 millions. Là, on commence à parler des 300-350. Donc, on commence à redonner. Après, il y a la situation de Marseille avec ce qui s'est passé avec le départ de Marcelino, le presque départ des Longoria, la situation difficile de Marseille. Et donc, un climat très particulier qui vit Marseille depuis plusieurs saisons.
Ouais.
C'est une réalité. Mais je pense qu'effectivement, McCourt veut vendre Marseille. Il attend tout simplement le bon investisseur.
Alors.
Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? C'est possible, parce
bien
que
sûr.
Vous l'avez dit, il y a le Mondial 2034 qui n'a pas encore été attribué.
Ouais.
Mais puisque pour l'instant, la seule candidate, c'est sûr que
c'est
ça va tomber. À l'Arabie Saoudite, mais en même temps, on sait parfaitement que l'Arabie Saoudite s'intéresse via les investisseurs, les fonds d'investissement, s'intéresse à plusieurs clubs dans d'autres championnats. Donc, il y a un intérêt, ce qui est réel. Est-ce que Marseille peut les intéresser à la fin? Allez vous savoir. C'est pour ça que je vous disais qu'on a pris le problème par les mauvais bouts. La réalité, c'est que oui, Marseille est à vendre. C'est en fait de l'information qu'on doit ressortir ces dernières semaines.
Ouais. Est-ce que McCourt a déclaré que je veux vendre?
Il le dément à chaque fois.
Il le dément.
Non, il dément. Pour l'instant, c'est vrai que les cabinets.
Non, mais attention, Marseille n'est pas à vendre.
Tout le monde dément.
On a des réactions.
Tout le monde dément.
C'est pour faire monter les enchères.
C'est une réalité.
De toute façon,
quand on dit que quelque chose est à vendre, forcément, tu en diras moins d'argent.
Non, mais alors on nous dit, dans le foot, quand on dit qu'on ne vend pas, c'est là où on vend. C'est Adnan qui nous dit.
Et puis, au-delà, on vend.
C'est là où tu peux monter cet argent. C'est simple, c'est comme si un joueur est sur la liste des transferts. C'est-à-dire que le joueur veut le vendre, le club veut le vendre, donc du coup tu tireras moins d'argent que ce qui passe sur le club de transfert et que le gars arrive et dise je veux tel joueur. C'est logique.
Il n'a jamais dit je veux pas vendre. Donc aujourd'hui personne ne connaît la position de McCourt.
Ça reste un investisseur, ça reste un investisseur qui investit beaucoup d'argent à Marseille. Il veut un retour sur l'investissement. Il ne voit pas le retour sur l'investissement, sportivement parlant, ni économiquement parlant. Donc, à un moment donné, n'oubliez pas non plus que c'est un Américain. Donc, ils sont assez carrés là-dessus. Si c'est pas bénéficiaire tout de suite, on attend quelques temps. Mais sinon, on vend et on récupère sa vie. Ça s'arrête là.
Sofiane,
l'Arabie Saoudite veut devenir le pilier du monde en termes de touristique aussi.
Ouais.
Donc, il y a au-delà du sport. Et quoi de mieux que de venir faire son marketing du pays dans le sport le plus pratiqué au monde et le plus vieux au monde.
Les autres monarchies sont à leur botte. Donc ne me dites pas, ils vont aller vers le Qatar ou vers les Émirats.
C'est
un pur produit de l'Arabie Saoudite. C'est le plus grand royaume, c'est la plus grande monarchie. Donc ils ont à aucun moment, ils ne voudront se faire comparer au Qatar. S'ils ont envie aujourd'hui d'acheter le PSG, ils vont l'acheter. Ils peuvent acheter même le Qatar, parce que c'est eux qui l'ont fabriqué. Voilà, deuxièmement. Faire des comparaisons. quand on connaît pas la dignité avec les
jamais dans les jamais
jamais dans l'excès. Il faut arrêter. C'est le pays le plus riche de la planète.
Ils ont pas été vexés que le Qatar ils ont eu la Coupe du Monde avant l'Arabie Saoudite.
Ne commence pas Soufiane, il y a un débat récent avec l'équipe de France. Laisse-le, il vient juste de se préchauffer. T'inquiète pas, vous restez avec nous chers auditrices et auditeurs.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur Time Sport dans cette émission avec toute l'équipe justement qui m'accompagne jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. 21h, 23h en ce mercredi 15 novembre, 20h et 19 minutes. Vous nous écoutez à la maison, en voiture ou même dans les transports. Allez, tranquillement, une heure concernant la planète sport avec Benji, avec Juan Trossé, Yacine et de la partie sans oublier Soufiane. Allez, place au second dossier.
Time Sport. Time Sport, la parole des sociaux.
Et nous arbore un magnifique suite, hein, le Witten Klang. C'est ça, c'est Moussa qui est avec nous justement dans ce studio. Oui, peut-être. Allez, on va. Moussa, bonsoir Moussa, comment ça va?
Bonsoir à tous.
Comment ça va Moussa?
Je suis là en voilà. tant qu'observateur.
Et c'est ça.
Rentrer dans l'arène peut-être.
Une autre belle voix de sur l'antenne de Beurre FM, c'est Moussa qu'on pourra retrouver avec justement sa connaissance concernant la boxe et tous ces sports de combat. Juan Trossé, on parle de cette équipe de France. Samedi, le match face à Gibraltar. On joue aussi des éliminatoires pour du côté du continent africain. Sans oublier aussi ce soir, c'est soir d'Europe pour le football féminin en Champions League. Faut le rappeler. Mais c'est vrai, cette équipe de France cherche un peu son neuf. L'après Benzema, l'après aussi Giroud qui commence à prendre de l'âge aussi. Voilà, qui pointe son bout du nez pour ce poste de neuf, quoi. Colomwani ou encore Nkunku ou même on en parlait tout à l'heure, Marcus Thuram, selon toi. Il y en a tant d'autres aussi. Hein.
On a eu, il y a quelques 15 jours, on a eu ce même débat, pas au niveau de l'attaque, puisque à l'époque, on parlait de la défense et notamment de Pavard. Tu nous avais posé la question.
Ouais, à l'époque.
Il est blessé.
J'étais avec toi sur le plateau. Voilà. Ouais, et beaucoup de monde trouvait que le joueur était. Ouais,
voilà.
Ouais. Moi, le premier, j'assume.
Alors, la question. Vas-y. On va essayer de répondre à cette question. Et la question est, qui pour le numéro 9? Donc apparemment, il est certain que pour Gibraltar, ça va être Olivier Giroud. Mais la question va beaucoup plus loin. Olivier Giroud, il a quand même 36 ans. Et l'Euro, ça sera en juin prochain. Donc, d'ici là-bas, on est en droit d'attendre que d'autres vont effectivement émerger dans cette attaque française.
Je suis révélateur.
Alors, ouais. Parisienne en quelque sorte, parce qu'il y a Colomwani, tu l'as cité, qui pourrait effectivement, après sa prestation, les minutes dont il a disposé lors du mondial, c'est pour ça qu'il a eu de la continuité en équipe de France, il pourrait faire quelque chose, sauf que on est tous d'accord que depuis son arrivée au PSG, il n'est pas décisif, il n'est pas flamboyant, il n'est pas efficace, il n'arrive pas à marquer. Mais en même temps, il a la jeunesse, il a 24 ans, il va certainement avec le PSG s'améliorer, on l'espère pour lui et pour le PSG, mais surtout parce qu'il a la confiance de l'entraîneur. On sait que Didier Deschamps aime bien Colomwani. Après, l'autre attaquant, c'est lui que je pense est celui le plus à même d'être numéro 9 lors du prochain Euro, je parle pas des prochains matchs, c'est quand même Marcus Thuram, tout simplement parce que c'est certainement un avant-centre, d'ailleurs c'est son poste de prédilection avec Mönchengladbach, donc c'est un joueur qui effectivement a un atout par rapport aux autres, parce qu'on sait aussi qu'effectivement notre ami Didier Deschamps aime bien faire jouer les joueurs pas à son poste. On l'a vu avec Koundé, on l'a vu avec Pavard, on l'a vu avec Lucas Hernandez, donc ça m'étonnerait. On l'a même vu à un moment donné avec Griezmann, qui était quand même avant et qui se retrouve depuis plusieurs années plutôt en arrière. Donc moi je pense que c'est Marcus Thuram qui devrait être l'attaquant le numéro 9, parce qu'Olivier Giroud a 36 ans, alors, il va arriver assez fatigué dès la saison qu'il joue en Italie.
Je suis d'accord avec toi sur le prochain numéro 9 de l'équipe de France. Peut-être ça sera plus Marcus Thuram que Colomwani. Bon, mais moi, je vais vous dire une chose.
Alors, vas-y.
Le numéro 9 de l'Euro, ça va être Giroud.
Giroud.
Cherchez pas à comprendre. Ouais. Giroud,
c'est
un film.
La saison aussi. Hein.
Hein
il y a la
mais il y a la saison, mais déjà, il est pas bien. Mais c'est un film, si on est toujours de ses cendres.
Mais ça t'embête pas que ce soit Giroud, le futur neuf de l'équipe de France pour l'Euro.
Attention, ce sera lui pour moi.
C'est pas lui
à côté. Si ça m'embête, oui. Mais il y a qui à côté?
Mais tu peux faire émerger des joueurs, tu peux changer de poste des joueurs, tu peux mettre Mbappé dans l'axe,
dans 6 mois.
Tu peux mettre Mbappé dans l'axe,
encore.
Tu peux un coup de
non, il va le frapper. On connaît les champs, comment réfléchir. Il veut du physique, il veut du jeu tête devant, il veut pas du bon jeu. C'est physique, c'est Didier Deschamps. Donc ce sera où Marcus Thuram ou Colomani. Mais pour l'instant, des trois, celui qui est plus opérationnel pour moi, de ses 36 ans, non mais en équipe de France, c'est Giroud.
Peut-être en
équipe de France. Giroud, il est en équipe de France, il claque à chaque fois. Et encore même à Milan, on le voit, il est là, il claque. C'est Gigi, c'est comme ça.
Mais dans l'autre club de Milan, t'as Marcus Thuram qui fait une très bonne saison.
Marcus Thuram, il fait. Cite-moi un bon match en équipe de France de Marcus Thuram.
Est-ce qu'il a eu vraiment le temps d'être titulaire pour s'imposer?
Il est rentré quand même, il a eu du temps de jeu.
Alors moi, je suis totalement d'accord que c'est plus un joueur que tu fais rentrer, un super sub. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, sur le principe de
jokers
te prendre Giroud, c'est que tu vas pas dans le futur, tu vas pas plus loin que le bout de ton nez. Tu vas jouer ton euro avec Giroud, tu vas être content.
Il va sécuriser.
Il va mettre son petit but en poule, il va être content pour tout le monde, alors que après tu vas jouer à 10 contre 11 pendant le quart de finale, ah, pendant une finale,
parce qu'il est à côté. Tu parles de Deschamps, hein.
Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis que tu vas.
Non, mais la formule Deschamps, moi je suis pas d'accord avec toi.
Il a laissé
Deschamps
sur le banc, Giroud, lors du mondial à un moment donné.
Mais bien sûr.
Il a laissé sur le banc.
Oui.
Il a laissé sur le banc à partir de quand?
Moi, non, mais
ce que je veux dire, que
contre l'Angleterre, s'il n'y a pas Giroud, on passe pas, les gars.
Moi, franchement,
c'est
tout le système qui est mauvais. D'un autre joueur. Ouais. D'ici l'Euro,
Vous voulez que je vous le dise?
Ouais.
Attention à Matistel. Voilà, c'est encore très jeune. Je crois que Matistel, c'est peut-être celui qui peut s'imposer dans un futur très proche.
Tout le monde d'ici la fin de saison.
De l'équipe de France. J'adore Matistel. Je trouve qu'il a pas assez de minutes avec le Bayern. Et on sait que Deschamps aime bien, déjà, quand tu joues dans un grand club, c'est coché. Il aime bien, par contre, quand t'as plus de temps de jeu et que t'es titulaire dans ton club. Ce qui est un peu compliqué. Et qui l'emmène dans qui soit pertinent, qui soit performant lors des entraînements, qui fasse des bonnes rentrées en jeu à la Colomani, il gagne sa place de titulaire.
Non, il va pas gagner. Il faut qu'il soit tous les. Il faut qu'il y ait une osmose. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Giroud, Kylian Mbappé, c'est quelque chose de sûr. Qui vient en équipe de France.
Sofiane, quand tu vois le dernier match de Giroud en Serie A italienne, tu dirais qui va rivaliser avec lui à ce niveau-là. Il donne la victoire à son équipe, il est toujours là.
Point de vue système,
titulaire, tu viens de me dire.
Un des championnats qui est donc dans le top 5 déjà.
Bien sûr.
Ensuite, on a donc un Colomani qui joue donc en Ligue 1, qui est un peu en dessous de la Serie A. Et pour finir, on a Thuram qui est encore, je pense, en dessous de ces trois-là. Donc déjà, si on regarde purement le championnat, en minutes de enfin, on parlera plus tard de temps de jeu, mais si on regarde le championnat, Giroud est un peu au-dessus. Et quand même, il arrive à avoir donc une régularité au niveau des buts.
D'accord.
Alors, si on prend donc ces points-là, je pense que Giroud est plus apte à jouer en équipe de France en étant neuf. Et donc ensuite, moi j'aurais classé donc en deuxième, et ça va peut-être vous surprendre, non pas Marcus Thuram mais Colomani, qui s'est illustré beaucoup plus en équipe de France que Thuram. Et je trouve que t'as bien fait de parler de Monsieur Tell, qui fait un début de saison incroyable et qui laisse présager que du bon donc pour la suite en équipe de France.
Allez, notre consultant justement, il est du côté de l'Italie à Rome, c'est Nasser. Bonsoir Nasser, comment ça va?
Buonasera a tutti.
Buonasera Nasser.
Buonasera Nasser.
Tu vas bien?
Scusami, perché il telefono
faut que j'entende la traduction. Eh oui, on le sait, on te sait un peu attristé, hein, tout de même, par ce qu'on a appris durant la journée avec Alexandra Bianchi. On en parlait avec Yassine et avec Rondre Rossé, toute l'équipe de Tamsport, hein.
Ouais, déjà, un pensiero spécial appel à Alexandra Bianchi, parce que c'est quand même une grande, grande journaliste qui nous a quittés assez jeunes. Donc c'est vrai qu'on dédicace cette soirée, cette émission pour elle. D'ailleurs, demain, j'irai représenter Tamsport à Ostia, à quelques kilomètres, j'allais dire, dans le sud de Rome. Voilà, puisqu'elle sera enterrée demain matin.
Oui, Nasser. Ben, merci de nous le faire savoir à toute l'équipe et aux auditeurs, aux auditrices de Beur FM. Nasser, l'équipe de France, oui, avec voilà, une nouvelle version, avec ce nouveau numéro 9.
Oui.
Il y en a qui sont pas d'accord avec Thuram, avec aussi non Colomwani ou encore Nkunku et j'en passe aussi. Hein. Il y en a Vistel aussi.
Non, après, l'équipe de France de football a un grand réservoir, que ce soit à l'attaque, au milieu de terrain ou en défense. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler Olivier Giroud, effectivement, il a un certain âge, mais quand on regarde ces statistiques qui sont juste impressionnantes du côté de San Siro, avec 7 buts inscrits depuis le début de la saison sur 11 matchs, c'est tout simplement impressionnant pour son âge. Et comme il l'a dit, on l'a pu l'entendre même à Milan, il le disait, il veut aller jusqu'à l'Euro, et voire même pourquoi plus. Il a faim, il a vraiment faim. Il s'est entraîné souvent avec Zlatan Ibrahimovic qui avait un certain âge, donc il le côtoyait très souvent au stade, et donc je pense qu'il a envie d'aller encore très loin. Et alors effectivement, il faudra penser à l'avenir, bien sûr. Moi, je pense notamment à Marcus Thuram qui fait de grandes choses du côté de l'Inter, Randal Kolo Muani qui a besoin de confiance avec le Paris Saint-Germain. Mais je pense que celui qui tient la corde, notamment pour les deux rencontres, que ce soit Gibraltar et la Grèce, c'est Marcus Thuram.
Oui, Mendy et Sofiane.
Marcus Thuram, moi je suis d'accord avec toi. Marcus Thuram, pour moi, il a plus sa place que Kolo Muani. Je trouve dans l'impact, déjà il ressemble plus à Deschamps. Ce qu'il aime bien, il aime bien la force physique, la percussion. Donc Marcus Thuram, c'est ce qui ressemblera plus dans le choix de Deschamps. Ouais. Mais je suis désolé, moi je reste sur Giroud. Giroud, il est plus performant. Il claque. Pour moi, ça va être Giroud. Après l'Euro, je pense que là, il va commencer à émerger des numéros 9. Et là, on pourra parler d'un nouveau numéro 9 à la tête de l'équipe de France.
Moi, j'ai vraiment un souci, c'est que en fait, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin d'un gars comme Giroud, c'est-à-dire qu'il ne participe beaucoup moins au jeu, même quasiment pas.
Comparer,
laisse-moi finir mon
avis.
Point de vue offensif, c'est-à-dire dans la création, dans la passe, dans la construction des points de vue tactiques, techniques, qu'il participe beaucoup moins qu'un Kolo Muani ou qu'un Marcus Thuram. Et pour moi, on a plus besoin de joueurs comme ça parce qu'on a un gars à la finition qui s'appelle Kylian Mbappé et qui est capable de finir les actions comme Giroud est capable de les finir. Et autre point que je voulais mettre en avant tout à l'heure, c'est que surtout, en fait, c'est un débat qu'on peut avoir depuis des années. Enfin, excusez-moi, l'équipe de France n'a jamais été une grande nation pour faire des grands numéros 9. Excusez-moi, ou alors ils n'ont jamais su les exploiter correctement. Moi, quand tu prends du recul, les grands numéros 9, les plus grands numéros 9 qu'on a eu, ils n'ont pas eu leur spécialement des grandes années de gloire en équipe de France. Tu prends des Cantona, prends des Anelka, t'as vu comment ils ont été traités en équipe de France?
C'est vrai.
Après on peut s'en mordre des doigts, et c'est, je pense que ça vient aussi de la formation. Peut-être un problème, et j'écoutais, c'était Jean-Pierre Papin qui expliquait ça, et qui expliquait que justement les numéros 9 actuellement en équipe de France, français ou même en Ligue 1 en règle générale, s'entraînaient moins assidûment, en tout cas dans des choses spécifiques, c'est-à-dire juste dans la finition, dans le tir, et des fois même bridés par certains de leurs entraîneurs pour éviter les blessures, alors qu'on parle quand même de la base de leur métier, c'est-à-dire mettre le ballon dans les filets, dans n'importe quelle position, quand ça arrive dans la surface ou en dehors. On leur empêchait de faire des séances de 30 ou 40 minutes après les entraînements où ils pouvaient frapper. Dans quel monde on est?
Après, Giroud, il a un impact physique devant qui fatigue les défenseurs, laisse la place pour Kylian Mbappé et pour les côtés aussi.
Un vrai travail de fond.
Moi, ce que je me dis de toute façon, c'est que quand la France est déjà qualifiée pour l'Euro, il va falloir commencer à amener des nouveaux joueurs. On a parlé des jeunes, mais il y a Kalimundo qui effectivement pourrait être ramené aux premières équipes. Parce que à quoi ça sert de mettre des attaquants droit gauche en avant-centre quand on a des avant-centres en France? Mais il faut les faire jouer. On a une équipe de France qui est déjà qualifiée. Pourquoi on continue? Moi, j'ai bien un Giroud, mais je pense qu'à 36 ans, en plus, il y a Gibraltar qui arrive et la Grèce derrière. Mais l'équipe est déjà qualifiée. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait faire venir des jeunes joueurs, de commencer à les former avec la première équipe. Il y a Kalimundo, c'est un des exemples, puisque.
Ilouaï, Matistel.
Effectivement. Après, il ne faut pas oublier que l'entraîneur, c'est Didier Deschamps.
C'est ça
le truc aussi.
On continue à s'émotionner autour d'Olivier Giroud. voilà, c'est bien. C'est ça. Sauf c'est qu'il a 36 ans et il a son avenir est plutôt derrière.
À l'avenir aussi. C'est limité le jeu de Deschamps, soit tactiquement, on le voit. Il se prive de beaucoup de choses avec des joueurs qu'il pourrait prendre. Et
ouais, mais, ça paye.
Mais non, ça paye pas. Arrêtez de me dire ça paye. Ça ne paye pas.
Allez, on revient rapidement avec Lyon et aussi Aurélien Duarte et sa chronique.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Oui, Aurélien Duarte a fait son entrée dans ce magnifique studio de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à 21h. Ne l'oubliez pas, Vanessa arrive 21h, 23h. Il y a Moussa aussi qui arrive à grands pas pour les prochaines semaines. Ça, c'est promis. Soufiane Benji pour m'accompagner, sans oublier Juan Trossé. Et Yacine qui est déjà en plein débat, on le rappelle. Yacine vient juste d'avoir un coup de fil assez mémorable et assez sérieux de son ami, justement, grand reporter du côté de l'Arabie Saoudite, Yaniet. Il nous confirme justement qu'il n'y a pas de rachat ou une probable vente.
Mais est-ce qu'il ne ferait pas un coup de poker
de Marseille? Ah ben je sais pas.
On vient d'avoir la confirmation.
Peut-être que Yacine a des parts aussi de la transaction, il ne veut pas nous faire dire. Yacine, il cache bien son jeu.
Mais oui, parce que des fois, on balance n'importe quoi juste pour faire le buzz. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Justement, avant d'avoir la fameuse chronique d'Aurélien Duarte, on va essayer de partir un peu pour parler de ces entraîneurs français et surtout de Genesio, Yacine. Genesio, c'est vrai qu'on a vu ce week-end, c'est parti un peu en freestyle, là, complet. Vraiment, Benji.
Ouais, c'est compliqué parce que j'ai l'impression vraiment qu'avec Genesio, l'amour dure 3 ans. Voilà, pour
citer.
Non, mais c'est vrai, on est sur quelque chose. On est sur un bis répétitif de l'Olympique Lyonnais. Alors moi, je sais que même au bout d'un an, il n'y avait plus d'amour avec cet entraîneur. Mais après, c'est personnel. C'est quand on parle football, je me reconnais pas dans son football. Mais après, ce qu'il fait à Rennes avec l'effectif qu'il a, c'est très très compliqué. Alors évidemment, c'est pas le seul fautif. Il faut aussi remettre en cause peut-être le travail qu'a pu avoir Florent Maurice ou même d'autres gens dans la cellule de recrutement, etc., etc. Mais excusez-moi, l'effectif qu'a Rennes cette saison, c'est top 3.
Moi, je me pose une question, avec cet entraîneur, c'est qu'au début, il fait du bon taf, mais pourquoi après ça part.
Qu'il n'a pas de.
Qu'est-ce qu'il a?
Parce qu'il a cette fâcheuse tendance à se mettre des gens à dos qui ne devraient pas se mettre à dos.
Il a un problème de caractère, quoi.
Et c'est même pas spécialement son. Spécialement son problème de caractère à lui, c'est juste qu'il a du mal à emmener les gens avec lui quand des gens veulent qu'on les emmène, tu vois, justement, et qu'il a du mal peut-être à tirer le meilleur de certaines personnes et d'un effectif qui lui permet d'aller plus haut. À l'Olympique Lyonnais, excusez-moi, on parle quand même d'un effectif qui pouvait concurrencer quasiment le Paris Saint-Germain, et c'est ça compliqué, c'est une équipe qui devait faire deuxième tous les ans et peut-être aller chercher mieux. Excusez-moi, on a vu des saisons où il n'y avait aucun jeu, où la course au titre était finie au bout de la moitié de saison, alors qu'on était cette équipe qui devait faire chier justement le Paris Saint-Germain. On voit avec un effectif beaucoup plus réduit ce qu'avait pu faire Lens la saison dernière, ou même des équipes comme Monaco, etc., qui ont pu aller chercher des noises au Paris Saint-Germain, ce que l'Olympique Lyonnais sous Genesio n'a jamais réussi à faire, et ce que n'arrive pas à faire Genesio avec Rennes. Alors bravo, il a fait quatrième la saison d'avant, il a fait quatrième la saison d'avant, mais là on voit que c'est très compliqué. Et l'année dernière, on se rappelle que son début de saison est catastrophique avec le Stade Rennais, et qu'il est sauvé par un Doku fantastique sur les derniers mois, qui lui permet d'aller chercher des points dans des matchs où il doit pas prendre 2 points normalement. Et en fait, pour moi, je pense que c'est un meilleur manager qu'entraîneur technicien. Et c'est pour ça que ça marche sur des moments peut-être précis, sur une première année, une année et demie, parce qu'il va pouvoir t'aider à resolidariser un groupe qui est en difficulté. Il a permis à Rennes quand même de pouvoir créer un projet, créer des choses avec des joueurs intéressants, avec Florent Maurice, du coup, qui est aussi l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.
C'est ça.
Mais tu sens que là, ça commence à s'essouffler, et parce que tu sens qu'il manque peut-être un peu de cesse. Science tactique, technique, et tu sens qu'en fait, il n'y a pas de patte Genesio, mis à part peut-être le fait de se reposer énormément sur des individualités et sur des exploits individuels, ce que j'ai beaucoup critiqué à Lyon. Oh, ça me rappelle Deschamps.
Ouais. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Regarde le palmarès de Deschamps.
Ça le rappelle.
Moi, je suis pas un pro Deschamps, mais le Deschamps, il met tout le monde d'accord.
J'étais dans la caricature, mais c'était
je crois qu'il a pas mis d'accord
Aurélien. C'était dans le principe de se reposer surtout sur des individualités.
Moi, Genesio me fait penser.
Deschamps adore faire ça également. C'était plus de ce côté-là.
Moi, je pense que Genesio, c'est plus un entraîneur de jeunes qu'un entraîneur de pro.
Non, il est entraîné, mais plus.
Non. Là, vous faites réagir.
Alors, moi, j'ai pas du tout aimé hein, le Deschamps à l'Olympique Lyonnais. Mais pour autant, je pense que tu vas alors, un Benji. Poil fort avec en disant que c'est un
truc. Trois trocés, on l'écoute.
Alors, si vous voulez parler
du temps encore avant la chronique.
C'est vrai que Genesio fait quand même mieux que Fabio Rosso. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette fête ce week-end que ça change quoi que ce soit. Ouais. Parce qu'en fait, le vrai problème n'est pas Rennes. Le vrai problème, c'est Lyon. Aujourd'hui, dans la Ligue, en Ligue 1, c'est le vrai problème. Une équipe qui était très mal en point la saison dernière et qui est dernière au bout des 11 journées, des 12 journées dans le championnat. Alors, quand vous pensez à Lyon et à ce qu'il a fait en Europe et à ses 7 championnats de France gagnés d'affilée, etc., bah, ça fait du mal. Après, faut pas se tromper. Il y a quelques jours, j'avais un débat avec d'autres journalistes sur les entraîneurs français. Mmh. Les entraîneurs français, par définition, sont assez défensifs. Moi, j'ai toujours défendu que eux, ils sortent pour ne pas perdre. Et c'est ne pas ça. Perdre ne veut pas dire gagner un match. Donc 1-0-0, c'est un point. Quand vous allez dans un championnat. Dans le championnat anglais, dans le championnat allemand, ouais. L'italien, ça dépend parfois, ouais, ou dans le championnat bien. Espagnol, ouais. Ben, 1-0-0, ben, c'est deux points de perdus pour l'une des équipes. Faux. C'est deux points de perdus pour les équipes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Rennes, sauf pour l'instant les meubles, on n'est qu'à 12 journées du bien championnat. Attention, allons voir. Mais le vrai problème aujourd'hui du championnat, bah, c'est Lyon.
C'est
une équipe qui n'avance pas. Oui. Et même cette victoire ne cache pas la misère de cette équipe aujourd'hui.
Ah, tu ne penses pas que ça
pourrait faire. On se rend compte que c'était la première victoire de l'Olympique Lyonnais sur les 15 derniers matchs. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la stat qui est assez folle. Ça fait 15 matchs que l'Olympique Lyonnais n'avait pas marqué un but de plus que son adversaire sur un match de football de 90 minutes. Et c'est sur un match à 11 contre 10. Au bout de 5 minutes de jeu, contre une équipe qui avait déjà joué à 11 contre 10 pendant 60 minutes le match d'avant. C'est... Donc c'est très compliqué. Comment je sais même plus où je voulais en venir. Si je voulais en venir sur les entraîneurs français, je suis totalement d'accord avec toi. Et je l'avais déjà expliqué sur ce plateau. C'est que les entraîneurs français, pour moi, ont quelque chose qui est très négatif et qui se tend à se gommer au fur et à mesure de la nouvelle génération d'entraîneurs francophones et français qui arrivent en Ligue 1 et qui a été amorcée selon moi par les entraîneurs étrangers qui sont arrivés en Ligue 1. Ils se détachent un peu de leur mot d'ordre qui était l'équilibre. Le mot d'ordre des entraîneurs français pendant des années en Ligue 1, c'était l'équilibre. Il faut toujours qu'il y ait l'équilibre entre la défense et
l'équilibre. Mais en même temps, est-ce qu'on avait les joueurs pour jouer l'attaque?
C'est juste que si t'apportes pas de folie dans ton équipe, t'es prévisible.
Si t'apportes pas de folie, tu prends 6 pions derrière, ta folie, elle sert à rien. Mais à un moment donné, les gars, il faut appeler un chat un chat et un chien un chien. On n'avait pas les effectifs qu'il fallait dans le championnat de France pour s'amuser à jouer à l'Espagnol.
Mais je te parle
de la brésilienne
contre français.
Oui, mais match contre français. Mais ça joue pas. Ça joue pas. Il y avait trop de différences de niveau dans le championnat de France.
Et c'est un problème que tu mets plus en avant le physique que la technique. On parle de football ou on parle de combat.
Mais aujourd'hui, ça change, comme tu le dis. C'est en train de changer parce qu'on travaille différemment dans nos centres de formation, on travaille différemment dans nos écoles de foot. Oui. Aujourd'hui, les joueurs français restent de plus en plus dans le championnat de France depuis que les Qataris sont arrivés. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Même là, on parlait la dernière fois, je ne sais plus si tu étais sur le plateau, on parlait de la Champions League, de l'UEFA, où tous nos clubs français brillent actuellement. Ouais. Donc, il y a un vrai travail de fond qui est en train de se faire. On ne peut pas enlever... la mentalité française qui était la meilleure attaque, c'est la défense. Aujourd'hui, en essayant de faire Jonah Boguito, je sais pas quoi, on n'a pas cette mentalité. Même en équipe de France, on a rarement joué au foot. Aujourd'hui, maintenant, on va travailler là-dessus et puis on revient sur Lyon. Lyon, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment catastrophique, mais moi je pense qu'il leur faut un coach de développement personnel. Là, il faut.
Ah, carrément.
Attention, le PSG est allé récupérer des joueurs français qui jouent à l'étranger.
Forcément, les gars.
C'est des joueurs qui sont partis et qui reviennent parce qu'il y a la puissance économique et financière aussi du côté du PSG. Il faudrait qu'on ait deux ou trois PSG comme il y a dans d'autres pays. Quand tu vas en Italie, tu sais que tu as, même s'il y a des difficultés financières, mais que tu as l'Inter, tu as la Juventus, tu as le AC Milan, etc. Donc tu as des clubs. Quand tu vas en Espagne, tu sais que tu as 3-4 clubs qui sont capables financièrement de t'apporter quelque chose, et tu es capable de leur apporter sportivement parlant. Donc aujourd'hui, il n'y a que le PSG qui le fait, et il est allé cette saison acheter des joueurs à l'étranger. C'est bien que Ousmane Dembélé revienne en France, sauf que, est-ce que vous vous rappelez quand il est parti, il a forcé son départ de la France pour partir en Allemagne, il a forcé son départ d'Allemagne pour partir en Espagne, donc voilà, la réalité c'est ça, c'est que les joueurs français continuent à partir parce que le championnat français ne leur offre pas cette compétitivité dont on a peut-être besoin quand on joue au plus haut niveau.
Moi, le seul point, je suis d'accord dans la globalité. Le petit point où je suis un peu en désaccord, c'est qu'il y a des clubs qui, par moment, auraient pu mettre la pression sur le Paris Saint-Germain et ne l'ont pas fait, alors qu'ils avaient des armes pour mettre la pression. Je te dis pas d'aller les concurrencer,
c'est-à-dire argent.
Mais non, même pas suffisamment d'argent.
Ça a été Monaco à un moment donné qui l'ont pas fait.
D'ailleurs, c'était Lens.
Ils l'ont fait. Ouais. Ils ont été prendre un titre quand même. Mais ce que je veux te dire, c'est que même juste sans parler d'argent, tu peux pas comparer des clubs français qui ont le même argent que le Paris Saint-Germain. Mais en termes de travail et d'intelligence de travail, de recrutement, de formation, il y a eu des clubs qui, que ce soit Lens, que ce soit Monaco, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, qui ont pu mettre la pression sur le Paris Saint-Germain et qui auraient dû continuer à mieux travailler. Et plus loin que le coup d'envoi juste de la fin de saison.
C'est des CDD.
Oui, mais non, mais juste si tu dis on va assurer notre deuxième place. Après,
c'est des CDD.
Tu stagnes,
les deuxièmes, ils ont jamais fait deux saisons d'affilée. Ouais. Ben, voilà. Moi, ce que j'adore dans les championnats, dans les championnats étrangers. Je cherche un CDI, c'est quelqu'un qui a quelque chose à me proposer. Non, mais ce que je veux dire par là, moi, ce que j'adore en Espagne, c'est qu'il y a des équipes comme la Atlético de Madrid, il y a Séville, on va au Portugal, il y a Benfica, il y a Porto, on va en Allemagne, il y a Dortmund. Il y a des clubs comme ça qui, ils sont équivaux à nos clubs à nous, mais ils font un meilleur travail.
Merci Soufiane et aussi Juan Trossé, sans oublier Yacine et aussi Benji pour toutes ces belles paroles. Allez, place à la dernière rubrique. On va partir avec justement Aurélien Duarte. Bonsoir Aurélien, comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir l'équipe des super chroniqueurs.
Bonsoir
la technique, les
auditeurs. Tu es chroniqueur, hein, tu fais partie de l'équipe. Hein. Merci. Sport. On t'écoute.
Ça va bien, merci. Bonsoir les âmes. Alors ce soir, il sera question de santé mentale. L'impact du sport sur la santé mentale. Improvisation. Il n'est pas bon signe d'être adapté à une société complètement malade. Effectivement, nous sommes dans une société de la sédentarisation. Regarde, tu te lèves le matin, tu vas à ton véhicule en ascenseur, de ton véhicule tu vas à ton lieu de transport, tu prends peut-être encore l'ascenseur ou l'escalator ou les transports, tu t'assieds sur ton bureau et tu restes immobile pendant 8 heures comme les enfants. Et ça, c'est pas bon du tout pour le corps. Bien avant de faire du sport, le sport c'est pour les sportifs, on était en mouvement. Si t'as un enfant de moins de 3 ans à la maison, regarde-le. Il arrête pas de bouger, il se déplace, il bouge, il saute, il expérimente, il escalade, il crapahute. Et ces enfants qui font ça sont en bonne santé. Il n'y a pas d'enfants difficiles, il n'y a que des parents fatigués, dépressifs et qui n'ont pas de solution. Alors, quand la cloche sonnait quand tu étais à l'école, est-ce que tu t'échauffais pour aller jouer à la corde à sauter, pour jouer à chat perché, à la marelle? Non, tu bougeais immédiatement. Est-ce que tu sais que tes grands-parents bougeaient 40 fois plus que toi? Des métiers à la ferme, des métiers à la campagne, des métiers de l'artisanat, les tâches ménagères ont bougé beaucoup plus. Regarde l'aberration de notre civilisation. Aujourd'hui, on se rend en véhicule dans une salle de sport pour aller faire du vélo elliptique. Ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, j'ai mis un peu d'humour. Les bienfaits physiques du sport, tu les connais, se renforcer musculairement, s'assouplir. Et il y a un secret, tu es une boîte à hormones. Et le mouvement crée des hormones, que tu le veuilles ou non. Souviens-toi de cette soirée où t'es assis, où t'as décidé de bouder, de pas danser. Ce soir tu feras la tête et il y a ta meilleure chanson qui passe. Ton meilleur ami te prend par la main et tu commences à bouger. Dès que le corps est en mouvement, ça va forcément mieux. L'énergie ne peut pas être au même endroit. Pardon, ne peut pas être à deux endroits différents au même moment. If you stay in your head, you're dead. Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. L'immobilité physique fait que ton énergie est utilisée par ce satané mental. 60 000 pensées par jour. Je peux pas, je suis pas capable, je balage, et si, et ça, comparaison, jugement, ça n'arrête pas. Utilise ton corps, bouge, danse, marche, moins de 3 étages, monte à pied, descends en arrêt de bis plus tôt. Quand un objet tombe au sol, ne te plie pas en deux, fléchis tes genoux, fais quelques pompes. Quand tu es au parc avec tes enfants, bouge avec eux, tu seras moins à les contrôler, à avoir peur qu'ils montent le toboggan à l'envers. Le sport, le mouvement, amène un sentiment d'appartenance, un club. Un t-shirt identique, un objectif identique, une complicité. Ça fait aussi tomber les rivalités. Ça développe la confiance en soi, le plaisir, les facultés d'apprentissage, de compréhension. Ça développe ta concentration. Ça facilite le sommeil et ça élimine les tensions physiques. On sait même aujourd'hui que dans certains traitements de maladies mentales graves, on utilise le mouvement. Si tu veux savoir quelle est la meilleure position, c'est le mouvement. Bouge ton corps, active-toi. Dans une notion de plaisir, dans une notion de dépassement de toi-même. Cesse cette rivalité, cette combativité. Même les athlètes de haut niveau que tu admires aiment ce qu'ils font plus qu'ils détestent leurs adversaires. Rappelle-toi que la motivation première, c'est l'amour. Ce que ça t'apporte, ce que ça apporte aux autres. Et tu verras qu'en remettant ton corps en mouvement, tu penseras moins à tes problèmes, tu penseras moins à tes soucis. Tu seras dans le cadeau, le présent. Le moment présent, au moment où tu attrapes ton ballon, au moment où tu accélères, où tu tapes dans ta balle, où tu fais ta chute, où tu envoies ton direct ou ton mawashi, à ce moment-là, ton cerveau est à l'instant présent, le seul moment qui existe. Bonne pratique sportive à tous.
Ah ben merci, oh, vraiment, oh, vraiment, bravo. Là, je crois que ça a décoiffé un peu tout le studio avec tout le monde. Voilà. Yacine, il commence à déjà s'échauffer. Vraiment, tu vois aussi Balboa, aussi les auditrices, les auditeurs. Ouais. Et tu fais tant plaisir à tout le monde. Hein. Et oui, il a même motivé Moussa avec nous. Sur là aussi, il est déjà chaud. Hein,
ah, c'est de bon, partir, je vais faire du sport tout à l'heure.
Il y a la pause qui arrive avec Vanessa à 21h. Ouais, ah, c'est assez sympa. En tout cas, un grand merci à toi, Aurélien, qu'on pourra retrouver dès mercredi prochain.
À Juan
José, à Soufiane aussi. Très sinon sur le sujet avec Benji et sans oublier aussi toi Yacine, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa, voilà qui arrive. Bye bye, bonne soirée à toutes.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.